Bonjour, bienvenue à Panorama Économique sur Radio Okapi, chers auditeurs. Les experts de la Banque Centrale du Congo, du ministère des Finances et ceux des banques commerciales proposent au gouvernement congolais un avant-projet de loi sur le système national de paiement en République démocratique du Congo. Cet avant-projet de loi est proposé en remplacement de la loi vieille actuellement en vigueur. C'est un marché de change très disputé qu'on a connu cette semaine à Kinshasa. Le franc congolais et le dollar américain se sont disputés la vedette, mais tout allait mieux pour le franc congolais en début de semaine. 800 francs congolais pour l'unité américaine. Des détails et analyses dans votre magazine tout à l'heure. Et nous revenons aussi sur quelques reportages réalisés cette semaine sur les usines locales. Nous l'avions fait en marge de la journée de l'industrialisation de l'Afrique, célébrée à Kinshasa le dimanche dernier. Et Panorama économique reçoit pour des analyses et commentaires. Bienvenue Marie Bakoumania, journaliste au desk économique du journal Le Potentiel paraissant à Kinshasa. Et pourquoi pas de la télé, c'est une chaîne de télévision et le temps depuis Kinshasa. Et c'est avec lui que nous allons commenter l'actualité économique de la semaine. Bienvenue, bonjour et bienvenue.
Bonjour Daniel.
Panorama économique, le dossier.
Les experts de la Banque centrale du Congo, du ministère des Finances, de l'Association congolaise des banques et ceux d'autres institutions financières réunis à Kinshasa cette semaine ont proposé au gouvernement un avant-projet de loi sur le système national de paiement.
Les experts ont analysé non seulement l'avant-projet de loi leur soumis par la Banque centrale du Congo, mais aussi ont procédé à l'aménagement de quelques lois extrêmement vieilles qui régissaient le secteur. Ce sont notamment en contre le décret de 1888 sur les contrats et obligations, le décret de 1934 sur la lettre de change et le billet à ordre, celui de 1951 sur l'usage du chèque bancaire. Clovis Mouboula.
Le système de paiement actuel en vigueur en RDC est régi par un cadre juridique obsolète et inadapté face à l'émergence de nouveaux moyens de paiement de type électronique. Il accuse une lenteur dans les transactions en monnaie nationale. 48 heures pour les opérations intra-urbaines, plusieurs jours, voire des semaines pour des opérations entre les villes ou provinces, un faible volume des transactions bancaires dû au fait de la prédominance des paiements en espèces plutôt qu'en scriptural. La nouvelle loi dans l'avant-projet vient d'être validée et devra répondre à toutes ces faiblesses. La Banque centrale du Congo a lancé la réforme du système national de paiement depuis 2010. Son gouverneur, Jean-Claude Massangou, estime que l'aboutissement de cet avant-projet de loi, en loi proprement dit, profitera aussi bien au secteur de l'économie générale de la RDC, au secteur bancaire et financier qu'au service public de l'État.
Merci Clovis Louboula. Le temps de retrouver notre invité, donc Marie Bakoumania. Bienvenue un avant-projet de loi pour régir le système congolais de paiement. Le système en vigueur est régi par des textes très vieux. Si on vous demandait à vous, par exemple, de proposer quelque chose dans ce système, dans cette loi pour régir le système national de paiement, que diriez-vous?
Écoutez, à mon sens, on a toujours été en retard. Des lois qui datent de 1800, donc à l'époque avant l'indépendance, ne devraient pas être en vigueur en une période où l'Internet a maintenant le droit de citer. Je crois que nous ne faisons que confirmer le retard que nous avons pris dans tous les secteurs. Et là, ce que je pourrais proposer, c'est qu'on ne réinvente pas la roue, hein, qu'on s'inspire de l'expérience des autres qui ont excellé dans ce domaine, des autres qui ont fait en sorte que les paiements se fassent sur simple clic chez soi, on peut passer de commande. Si on peut s'inspirer de cette expérience-là, on peut rattraper le retard qu'on a accumulé durant des années. Mais seulement, je plaiderais pour que l'on aille vite à mettre fin à cette cassure numérique qu'il y a dans le pays, hein, notamment avec la fibre optique qui devra se déployer à travers le pays pour que les choses puissent aller rapidement. Mais visiblement, on est encore loin, mais qu'on mette déjà en place le cadre juridique, c'est déjà une bonne chose à encourager, et je dirais même que la Banque centrale du Congo a agi en retard.
Bon, je me dis, je voulais avoir votre avis par rapport à cela.
là qui pensent que le fait que le système actuel en vigueur en RDC met plus l'accent sur les paiements en espèces, c'est ça qui est à la base de détournement de deniers publics qu'on observe dans presque tous les secteurs en RDC. Et vous, bienvenue, qu'est-ce que vous disiez par rapport à cet avis-là?
C'est la stricte vérité. Et même si on a entretenu ce mode de paiement, c'est-à-dire le paiement en numéraire, c'est justement parce que des préposés, les responsables à tous les niveaux, à tous les échelons, avaient intérêt à ce que du cash tombe sur les tables plutôt que d'avoir des chiffres qui tomberaient, des opérations qui se passeraient entre les banques. Donc je pense que pour lutter également contre la corruption, ce mode de paiement par voie bancaire est un mode de paiement qui convient le mieux pour un État moderne, pour un État en plein 21e siècle, cet État qui a besoin d'avoir des ressources, cet État qui est gangréné par une corruption généralisée, cet État a besoin que les opérations se passent dans la transparence, que la traçabilité des opérations puisse être clairement établie, plutôt que d'avoir des paiements qui se font en cash et qui, in fine, n'arrivent pas au trésor public, n'arrivent pas à l'escarcelle du trésor public, ce qui est préjudiciable, ce qui fait qu'on n'arrive jamais à mobiliser suffisamment de ressources pour le compte général du trésor.
Le deuxième dossier de la semaine va nous conduire sur le marché d'échange où nous le disions au sommet. Le franc congolais et la monnaie américaine se disputaient la vedette à Gatun.
Le marché a connu une sorte de spéculation sur le taux d'échange observé à partir du week-end passé ainsi que le début de cette semaine. Le dollar s'est changé jeudi à 870 francs congolais sur le marché parallèle. Nous avions observé différents taux lundi et mardi entre 800 et 850 francs sur ce marché. Et mercredi, nous étions environ à 850 et 860 francs le dollar américain.
Bienvenue Marie Bakoumania, vous êtes journaliste au desk économie du groupe Le Potentiel Philippe. Comment vous avez vécu, vous, et quelle analyse vous avez apporté à cette situation qu'on a vécue cette semaine sur le marché de change?
Cette appréciation subite et spectaculaire du franc congolais ne relève pas d'une politique savamment réfléchie, d'une politique mise en place pour que le franc congolais puisse s'apprécier tel qu'on l'a vu.
C'est tombé comme une feuille dans la soupe.
Là, il s'agit d'une conjonction de faits, une conjonction d'événements qui a fait que le dollar, la situation conjoncturelle, c'est une appréciation conjoncturelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, en fin de semaine dernière, une forte demande en francs congolais, une forte pression a été exercée sous le franc congolais, notamment venu du Kassai, des gens sont venus chercher des francs congolais à Kinshasa. Pour des fins de campagne électorale. Et il y a eu également ces différents candidats députés nationaux. Ils sont 18 300 et quelques. Et il y a également 11 candidats président de la République qui avaient gardé de l'argent en dollars américains et aujourd'hui pourraient mettre qui 1000 francs, qui 500 francs, ont échangé les dollars américains épargnés contre le franc congolais. Ce qui fait qu'il y avait une forte pression sur le franc congolais. En deuxième lieu, on est arrivé à échéance pour les paiements de deuxième compte provisionnel au niveau de la Direction générale des impôts et les entreprises payent ces acomptes en francs congolais. Ils sont partis sur le marché rechercher des francs congolais contre des dollars américains.
Ces facteurs réunis ont donné de la valeur un peu au franc.
Exactement. Le franc congolais étant devenu recherché, il y avait plus de dollars américains sur le marché, ce qui a fait que le franc congolais s'est apprécié. Et je dis tout de suite que c'est pour un temps extrêmement limité. La preuve, c'est que les opérateurs économiques, les vrais, qui font de l'anticipation et qui observent, ils sont dans l'attente. On dira que c'est la théorie de l'élasticité vers la baisse. Moi, je dis que les opérateurs économiques, ils sont réalistes et ils se disent que c'est pour un temps. Les prix n'ont pas changé. C'est la preuve. Les prix n'ont pas changé. Les opérateurs économiques ne changent pas les étiquettes simplement parce qu'ils savent que c'est tout à fait passager. Cette appréciation du franc congolais ne va pas durer. Et et même toute récupération serait battue en brèche d'ici quelques semaines, juste après la campagne électorale.
Mais bienvenue si cette appréciation n'est pas née du fait d'une action de la Banque centrale et l'autorité monétaire. Du moins, vous pouvez reconnaître que cette institution a fait beaucoup d'efforts pour du moins stabiliser la monnaie à un certain taux pendant plus d'une année.
Oui, absolument. Rendre à César ce qui est à César. La Banque centrale, moi je me disais, avant la fin d'année, je voyais le taux au-delà de 1000 francs congolais. Donc j'ai été démenti agréablement par la Banque centrale qui a pu maintenir le taux autour des 900 francs congolais, le dollar américain. Je pense que c'est la valeur réelle du franc congolais et on ne peut pas, sauf une récupération, à mon sens, qui ne tiendrait pas la route, qui ne tiendrait pas longtemps, qui ne serait pas long feu, on ne peut pas présager d'une appréciation spectaculaire et subite du franc congolais en dehors du mois de mai, aux alentours de 900 francs congolais. C'est de la spéculation et on ne peut pas baser une politique sur ces bases-là.
Ne croyez-vous pas que le contraire sera spectaculaire, c'est-à-dire quand le dollar va reprendre la situation en main, on risque d'avoisiner les 1000 francs congolais.
Mais justement, c'est ici que l'appel du Fonds monétaire international en direction.
Surtout qu'on est en fin de l'année.
On est en campagne électorale. Il y a des choses qui se disent à gauche, à droite, qu'on n'anticipe pas que cette appréciation du franc congolais, après les élections, qu'on revienne à la situation normale. Le yo-yo qu'on a constaté étant artificiel, c'est un yo-yo, bien que ça se justifie par la conjonction de faits comme je l'avais évoqué tout à l'heure, mais ce yo-yo-là ne doit pas faire en sorte que les gens dorment sous leur laurier et ouvrent carrément les vannes pour des raisons qui n'étaient pas avec une gestion orthodoxe des finances publiques. Mais maintenant que ça semble un tout petit peu calme, il faut avoir les deux pieds sous terre, et là c'est la Banque centrale et le gouvernement, avoir les deux pieds sous terre pour ne pas tomber dans le travers d'une auto-satisfaction qui n'a pas des bases solides sur les terrains.
Le dernier dossier de la semaine, c'est pour prendre et parler de cet appel de la Direction générale des impôts.
Dans un communiqué dont nous est parvenu cette semaine une copie, la DGI exhortait ses contribuables à payer le deuxième acompte provisionnel sur les bénéfices et profits au plus tard le 25 novembre. Denis Locadie, du directeur général de la DGI, était l'invité de l'économie du lundi soir. Un extrait de son interview.
La loi prévoit qu'il y ait une sorte de paiement anticipatif qui s'effectue en deux temps. D'abord, à la fin du mois de juillet de l'année de réalisation de revenus, où on doit payer 40% de l'impôt qu'on a déclaré au titre de l'exercice précédent. Et au mois de novembre, au plus tard le 30 novembre, on doit payer également 40% de l'impôt déclaré au titre de l'année précédente, plus les suppléments qui ont été établis par l'administration. Et les contribuables qui sont concernés, c'est tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les bénéfices qui relèvent de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts et des sièges modernisés des directions provinciales des impôts. La différence est payée au mois de mars.
Le deuxième acompte doit être payé au mois de novembre, comme vous l'avez dit, mais ce mois de novembre en RDC en cette année coïncide avec les élections. Comment comptez-vous vous en sortir?
Oui, c'est ainsi que nous avons lancé ces communiqués pour exhorter tous les contribuables qui sont assujettis à fait au paiement de ces deuxièmes acomptes provisionnels de prendre toutes les dispositions pour s'acquitter de cette obligation au plus tard le ce vendredi 25 novembre 2011, de manière à ce que leur paiement soit pris en compte dans les délais légaux, c'est-à-dire au plus tard à la fin de ce mois.
Voilà, bienvenue, les politiques sont en campagne, mais ceux-là du secteur financier sont là et ils ne veulent rien lâcher.
Mais ils ont intérêt parce que la République doit continuer à vivre. La République a besoin de ressources pour continuer à fonctionner, même si les politiques sont en campagne, mais l'État, lui, il continue à exister et l'État ne peut pas disparaître. Et le DG de la DGI a intérêt, il a raison de l'inviter à exhorter le contribuable à payer au plus tard le 25, la période électorale, c'est une période importante. Les opérateurs économiques, du moins congolais, ils ont l'obligation civique d'aller voter. Il faut que ces choses-là se fassent dans la sérénité avant les élections. Comme ça, on est quitte. Pas seulement là où je vous ai insisté, je voudrais encore revenir, sauf que j'en ai l'occasion, que la Direction générale des impôts, que le Parlement de la République, que l'État congolais arrive à élargir l'assiette fiscale. Continue à exercer la pression fiscale sur 20% d'opérateurs qui payent 80% de l'impôt, alors que 80% des opérateurs économiques ne payent quasiment rien à l'État. C'est une situation qui doit être renversée. Il faut que l'impôt soit dispatché sur tout le monde. Moi j'ai vu dans l'entreprise où je travaille, je ne livre pas de secret de Dieu. On taxe par exemple le potentiel 75 millions de francs congolais d'impôts. C'est inimaginable. Inimaginable. Donc, je me dis, on veut soit asphyxier les entreprises et auquel cas l'État n'aura plus rien parce que les poules aux œufs d'or auront disparu. Ou je crois qu'on a intérêt à imaginer des formules pour ramener tous ces fonds, toutes ces ressources qui circulent dans l'informel, qu'on puisse arriver à les fiscaliser pour que l'État puisse avoir suffisamment de ressources.
Mais bienvenue avec l'arrivée de la TVA en janvier prochain. Est-ce que cette situation ne pourrait pas être résolue?
Écoutez, à mon sens, on peut changer de système tant qu'on voudra, mais tant qu'on n'aura pas la vraie imagination pour arriver à taxer les vrais contribuables, à identifier les vrais contribuables, et ils sont nombreux, et les taxer, à ce moment-là, on ne résoudra pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut arriver à taxer un maximum de personnes, à partager, à élargir l'assiette de l'impôt, afin que les charges ne pèsent pas seulement sur quelques-uns qui ont le malheur d'être identifiés. Il faut que l'imagination, le prochain Parlement, le prochain chef de l'État, ils doivent avoir de l'imagination et arriver à fiscaliser l'informel. La FEC nous a révélé qu'il y aurait 15 milliards de dollars américains en circulation, hors circuit. C'est anormal alors qu'on a un budget de 7 milliards. Bon, moi qui dis, j'ai un budget de 4 milliards ou à 3 milliards et demi sur fonds propres de l'État.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 10h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
D'autres infos de la semaine en plus bref. Mardi, les abonnés de la régie des eaux du quartier Ndanou dans la commune de Limba Salongo ont dû constater une hausse de 20% sur leur facture de consommation du mois de septembre.
Ils ont soumis pour cela lundi leur revendication au bureau de la régie des eaux dont ils dépendent. Mais pour la régie des eaux, il n'y a pas eu d'augmentation tarifaire d'eau. Le directeur commercial de la régie des eaux précise que cette augmentation constatée par ses abonnés sur leur facture serait certainement due à une augmentation de leur consommation d'eau.
Toujours mardi, nous parlions de l'Union européenne qui venait donc d'étendre sa liste noire des compagnies aériennes interdites de vol sur le ciel européen.
Et même si la nouvelle compagnie aérienne à peine installée à Kinshasa n'est pas épargnée, nous parlons de Stellar Airways qui figure sur cette fameuse liste noire y compris d'autres compagnies étrangères évoluant au Honduras, aux Philippines, en Jordanie et au Congo-Brazzaville.
Une station en service a été attaquée mercredi dans la soirée par deux hommes armés en plein centre-ville à Bounia.
Les brigands ont tiré sur un client et un pompiste de la station avant d'emporter sur eux plus de 1000 dollars américains de recettes. La police arrivée sur les lieux quelques minutes après d'y avoir ouvert une enquête pour retrouver les traces de ces bandits.
Et on peut aussi dire un mot à l'international avec la publication cette semaine par le magazine américain Forbes des 40 personnalités les plus riches de l'Afrique.
Ils sont au total 16 milliardaires, dont 7 Égyptiens et 4 Sud-Africains. Le premier du classement, le Nigérien Aliko Dangote, propriétaire d'un groupe centré essentiellement sur l'agroalimentaire. Sa fortune est estimée à 10,1 milliards de dollars. L'âge moyen, disons-le, l'âge moyen de ces 4 Africains les plus fortunés est de 61 ans. Aucune femme ne figure dans le palmarès.
Merci Agathe, et c'est le temps de retrouver bienvenue Marie Bakoumania qui commente l'actualité économique de la semaine avec nous dans Panorama économique. Bienvenue. Je me dis 16 milliardaires africains, et celui qui est le plus fortuné en Afrique, c'est un Nigérian qui s'est spécialisé dans l'agroalimentaire. Voilà un exemple pour la RDC qui compte plus d'une centaine de milliers de terres arables.
Oui, mais écoutez, même chez nous, on cite régulièrement Moïse Katumbi, le gouverneur de la province
de Katanga.
Selon ce que moi je sais, c'est beaucoup plus dans le pétard qu'il a fait fortune. Donc c'est dans l'alimentaire, dans l'agriculture. Et là, c'est tout à fait anormal pour la République démocratique du Congo avec toutes ces terres arables et qu'on n'arrive pas à avoir des fermiers. C'est difficile. Tout le monde veut être dans un bureau. Les ministres, les dirigeants, je ne vais pas des dirigeants de manière générale, ils n'ont même pas de petites fermes ici dans la périphérie de Kinshasa. Ce sont des choses. L'argent, c'est dans l'agriculture, l'argent, c'est dans la terre. L'argent, ce n'est pas dans les bureaux, l'argent, ce n'est pas nécessairement dans les mines. Dans la terre, on peut avoir suffisamment de ressources et se faire milliardaire. Heureusement, c'est le premier de l'Afrique. C'est dans l'agro-pastoral qui est utilisé. J'aurais peut-être voulu, par rapport à la liste noire,
passer un mot.
Ces sanctions, c'est plus à l'endroit de l'autorité de l'aviation civile. Les entreprises qui opèrent en République démocratique du Congo peuvent respecter les règles, mais à partir du moment où l'autorité de l'aviation civile n'est pas en mesure de les contrôler, à partir du moment où l'autorité de l'aviation civile n'est pas à même de faire appliquer la réglementation à la matière, je pense que les sociétés d'aviation de la République démocratique du Congo seront toujours listées sur la blacklist de l'Union européenne. On peut tout faire, on peut importer les derniers avions, derniers cris, tant que l'autorité de l'aviation civile sera. Il y a des personnes compétentes qui sont à la tête de cette autorité. Malheureusement, ils n'ont pas de moyens pour faire du bon boulot.
C'était curieux pour moi de voir Stellar Airways sur cette liste-là, alors que Stellar venait de s'installer sur ce panneau publicitaire. Elle affiche un Airbus A320, dit de tout neuf.
Absolument.
Curieusement, avec un appareil comme celui-là, c'est blacklisté, donc.
Justement, à partir du moment où l'autorité chargée de contrôler le bon fonctionnement, les entretiens, la manière dont on remplit, on en avait parlé une fois-ci, comment on remplit les carburants. On met le stock, on laisse à terre, on met à la place du stock. À partir du moment où on n'est pas sûr, qu'à 100% les contrôles sont faits de manière suivant les standards, mais l'Union européenne qui joue à la prudence en cette matière, tout État sérieux ne peut jouer qu'à la prudence étant la règle primordiale. On coule les avions au sol. Ici, chez nous, l'autorité de l'aviation n'ayant pas de moyens, c'est difficile. Moi, je venais de l'Équateur, j'ai voyagé il n'y a pas longtemps à la RVA, mais pour accéder dans un avion, mais c'est un parcours de combattant. Est-ce que ça doit continuer à perdurer? Quand on est dans la salle d'attente, on transpire comme de cauchemars. Est-ce que ça a lieu d'être lorsque chaque fois on débourse le go-pass? Ce sont des petites choses comme ça qui peuvent faire en sorte que la RDC quitte cette liste noire. Est-ce que je ne livre pas de secret de Dieu. J'ai comme ça appris au hasard d'une conversation, j'ai surpris qu'un agent qui avait transporté une autorité à l'Équateur avait sa licence expirée la veille. Cet avion ne, pou-
pouvait pas voler.
C'est que le contrôle pose problème.
Le contrôle pose problème et les inspecteurs de l'OACI, ils savent voir qu'il y a problème. Et à l'Union européenne, comme c'est les vies humaines ont une valeur inestimable, ils ne veulent prendre aucun risque. Ils préfèrent ne pas monter dans ces avions, ne pas recommander ces avions, plutôt que de prendre ces avions au risque au péril de leurs ressortissants. Ils n'en veulent pas.
Panorama économique réconfortant.
La journée de l'industrialisation de l'Afrique a vécu le dimanche dernier à Kinshasa sous silence et au cours de cette semaine, Écho d'économie nous a fait découvrir quelques hommes d'affaires à la tête de certaines industries locales en RDC. Nous revenons sur le reportage qu'a effectué notre reporter à l'usine de fabrication de liqueurs Pousse Café et de vins de table à base de fruits et une œuvre de l'inventeur congolais Kabasé Lumumba allant à la découverte de l'usine installée dans la commune de Kinshasa. Nous sommes dans la capitale.
Sur l'avenue Ngungu, dans la commune de Kinshasa, est située cette usine de fabrication de la liqueur Pousse Café à base de café bien entendu et de vin de table à base de fruits. Ce qui frappe à l'entrée de cette usine, c'est des cuves de capacité allant de 100 000 voire 5 000 litres. Nous arrivons et trouvons le propriétaire, l'inventeur Kabasé Lumumba, qui s'apprête à filtrer le vin brut déjà produit. Il nous explique le processus de production.
Première étape, on a mis de l'eau dans les filtres pour le nettoyer. Il y a des résidus de notre produit qui étaient faits. On les enlève. Deuxième étape, on met le vin brut. On allume l'agitateur pour qu'il tourne et qu'il apprenne à la liquide de continuer à tourner. Comme ça, nous allons ouvrir d'autres pressions dans d'autres machines. Il connaît qu'il faut tourner et il va vite. Hein. Et après cette farine-là, nous allons mélanger maintenant. Le vin brut que vous voyez, vous ne le verrez plus. Et après ça, nous allons ouvrir le moteur de pression pour envoyer dans un autre filtre qui a les maillots trop petits, qui retient même la graine de sable. Celui-là va retenir toute la farine qu'on a mis tantôt, ne laissez que le propre. Il va stériliser le produit, il va sortir un produit très propre qui ne fait pas sa dimanche.
Les machines installées à Kinshasa, comme celles installées en Bujimaï, toujours du même propriétaire, ont la capacité de produire 2100 bouteilles par heure. Mais, faute de moyens, seulement 500 voire 600 litres sont produits le mois. Les machines sont dotées d'un moule pour la fabrication de bouteilles, le tout a coûté près de 5 millions de dollars américains sur fonds propres.
Les machines m'ont coûté, parce que sont complètes, 1 600 000 dollars. En Bujimaï, il y a quelques machines qui manquent. Ça a coûté 1 300 000. J'ai dépensé 1 700 000 pour les moules en France pour qu'on les amène ici.
Et vous n'avez pas reçu un crédit quelque part. Comment vous êtes parvenu à avoir toutes ces machines?
Vous savez, nous avons suivi les traces des pionniers. C'est imaginer tout d'abord ce qu'il faut faire, le faire à la main, le faire déguster. Qui vient de déguster le vin, non?
C'est-à-dire
que c'est très bon. Et bien avec ça, je peux faire à la main, vendre. Quand ça se vend beaucoup, je gagne l'argent.
Le marché était jadis rentable, mais depuis l'avènement d'un whisky en sachet du Supunatolo, livré à vil prix, le produit de l'usine Kabasé Lumumba, pourtant de qualité internationale, ne font plus bon marché à 3000 francs congolais la bouteille. L'incidence se fait aujourd'hui sentir sur le personnel. Avec une soixantaine de travailleurs il y a quelques années, l'usine fonctionne seulement avec une dizaine faute de financement. C'est le dernier tournoi de Panorama économique qui reçoit. Bienvenue Marie Bakoumaya, journaliste au desk économie du groupe Le Potentiel Télé7 ici à Kinshasa. Bienvenue la journée de l'industrialisation de l'Afrique en RDC est passée sous silence, comme si il n'y avait pas d'initiative au Congo allant dans ce sens, alors que il y a des génies congolais qui au fur et à mesure mettent à jour des inventions. Donc l'industrie en RDC. Moi, je me demande à quoi servirait le ministère de l'industrie ici au Congo.
À servir des clients certainement. À servir certains clients politiques. L'industrie, une politique d'industrialisation du pays n'est pas à l'ordre du jour. Quand on voit des oranges qui poussent sur la route du Bas Congo, les mangues qui poussent, il y a des moyens de les conditionner et de les vendre, et voire de les exporter. Il faut une politique
réfléchi au niveau du gouvernement. Il faut que les prochaines décisions qui vont venir.
C'est de l'argent perdu.
C'est de il y a une absence de volonté. C'est de l'argent perdu pour les trésors publics. Il y avait moyen d'organiser les gens en coopérative, de les encadrer, de les amener à avoir du crédit auprès des institutions financières appropriées. Et ainsi créer des richesses. C'est ça la création des richesses. La NAPI, bon, je ne sais pas de quel travail ils abattent le ministère du plan, je ne sais pas le fonds de promotion de l'industrie, je ne sais pas ce qu'ils font exactement, mais ils brassent des millions de dollars. Le ministère de l'industrie, est-ce qu'il a une politique réfléchie en matière d'industrialisation du pays? Je ne pense pas. Les initiatives comme celle de l'inventeur Cavasselli, elles sont plutôt rares. Et même, elles ne sont pas accompagnées. Voilà justement.
Ouais.
Au lieu d'accompagner de pareilles initiatives, quelqu'un qui va à gauche, à droite, réunir comme ça des millions et des millions, la DGI viendra avec des impôts salés, la DGRAD va se pointer, le service de culture et art va se pointer. Donc, une multitude de services vont se pointer pour soucier cet opérateur économique qui crée des emplois. Et l'État qui n'a rien apporté cherche absolument à avoir quelque chose. Mais je crois qu'il faut qu'on change de fusil d'épaule. Il est encore temps, et les élections, c'est l'occasion qui est donnée à tout le monde pour qu'on puisse justement rectifier ce fusil d'épaule pour que l'on puisse avoir des politiques réellement réfléchies pour le développement du pays. On ne peut pas se développer sans industrie. D'envoyer la jeunesse, d'orienter la jeunesse vers les petites unités qui peuvent créer de l'argent et lorsqu'ils vont payer les impôts, c'est l'État qui serait le plus grand bénéficiaire. Non seulement il aura attiré des impôts, il y aura moins de charges parce que les gens auront un revenu et les tensions sociales vont baisser. Et finalement, c'est le développement qui sera au rendez-vous.
Et le budget va également s'accroître.
Merci beaucoup.
Bienvenue Marie Bakoumania à commenter et analyser toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique sur Radio Okapi. Devant le micro, Daniel Tampinzoni et Agathe Mpona Elema. De l'autre côté de la deux vitrées, Elke Sidiakala pour la mise en onde. Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Restez à notre écoute pour la suite de programmes sur votre radio. Bienvenue. Merci encore une fois.
Et merci à vous. À vous Daniel et Agathe.
Et à la prochaine.
Merci beaucoup.